rumeurs, analyses, opinions. Voici Bernard Drainville.
Il est 8h10, mon cher Bernard Drainville, bon matin.
Salut!
Hey, juste avant qu'on s'enligne sur les sujets officiels de ta chronique d'aujourd'hui, j'aurais aimé t'entendre comme journaliste de formation, ex-politicien et ex-membre aussi de l'Empire QMI. Mais en fait, tu travaillais un peu comme pigiste. T'étais-tu contractuel officiellement chez Québécois ou...
Du temps de la joute, j'étais contractuel, oui.
Okay. Avec la décision du juge concernant le journal de Montréal qu'on a tous déjà vu sur Facebook qui condamne donc les actionnaires du journal de Montréal a versé 23 500 et a changé carrément de nom pour leur site de parodie du journal de Montréal, bien évidemment. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais je suis déçu de cette décision-là.
Moi aussi. Je comprends les arguments, là. Tu sais, je comprends les arguments, puis le juge rend sa décision, puis les fondements de sa décision sont clairs. Je veux dire, tu peux être d'accord, tu peux être pas d'accord. Moi, je veux pas... C'est bien, fondé en droit, puis je trouve que son argumentaire est bon, mais moi, j'aimais ça, j'aimais cette espèce de parodie, puis j'aurais voulu, dans le fond, j'aurais souhaité que la direction du journal de Montréal peut-être ait un peu plus de... un meilleur sens de l'humour et accepte que le journal de Montréal reste dans les parages, parce que franchement, ils sont hilarants, là.
Ben oui.
Alors,
hey, c'est
16 milliards de contrats, c'est quelque chose. Alors, la première réaction, donc, tu dis, on se fait avoir. On se fait avoir. Sauf que quand tu fais un peu de recul, tu peux dire, non, c'est peut-être la meilleure nouvelle que la DV pouvait pas ou a pas eu depuis très longtemps. Okay. Tu peux décider de voir le verre à moitié vide, puis tu peux le voir à moitié plein aussi. Parce que Justin Trudeau annonce aussi hier qu'il a l'intention d'ajouter un troisième chantier naval à la fameuse stratégie canadienne de construction navale qui a tant profité aux deux autres.
Ouais.
Comme on me disait hier à Ottawa, tu sais, la garde côtière a 30 bateaux à faire construire d'ici 2030. 30 bateaux à remplacer. On en a donné 18 à la Nouvelle-Écosse et à la Colombie-Britannique hier. Fais le calcul.
Donc, il en resterait 12 pour le Québec à annoncer éventuellement.
C'est ce que j'ai compris et c'est très clairement ce qu'on voulait me communiquer. Maintenant, il va y avoir un appel d'offres. Il n'y a pas de garantie à 100%, mais ce qui est sûr, c'est que le seul chantier maritime qui reste au Canada qui peut combler le restant des besoins, qui peut construire ce qui reste à construire, au-delà de la commande donnée hier,
ouais, c'est
le chantier maritime de Lévis, qui, soit dit en passant, il faut jamais l'oublier, le plus gros chantier maritime au Canada, c'est celui de la Lévis.
Mais dis-moi, Bernard, on n'oserait pas annoncer ça au mois de septembre?
Alors ça, c'est l'affaire. Tu sais, hier, moi, je leur ai dit, à Ottawa, j'ai dit, « Maudit, pourquoi ça vous a pris 4 ans à réaliser qu'il fallait que la Lévis fasse partie du portrait puis devienne le troisième joueur puis puisse recevoir éventuellement des contrats milliardaires? Pourquoi ça a pris 4 ans? Il y a 40 députés libéraux fédéraux à Ottawa. Trudeau a 40 députés au Québec. Il y a plein de ministres du Québec dans son conseil des ministres. Qu'est-ce que vous avez bretté encore? Et là, ils me disent, écoute, on est arrivé, c'était une décision des conservateurs, il fallait faire attention, il fallait faire la démonstration qu'on avait besoin d'un troisième chantier, ça a pris du temps, et là, ben, on avance. Et ce qu'ils me disent un peu à mot couvert aussi, c'est la raison pour laquelle on en pèle autant dans la cour de la Colombie-Britannique et de Nouvelle-Écosse, dans le cas de dans la cour des deux chantiers de Irving et de C-SPAN, c'est qu'on leur donne de l'ouvrage jusqu'en 2030. Et donc, on les remplit à ras-bord, de telle manière à ce qu'ils ne puissent pas contester devant les tribunaux l'ajout d'un troisième joueur.
OK, fait qu'ils pourront pas chialer.
Tu comprends?
Ouais.
Ils pourront pas chialer, ils pourront pas dire, dans le fond, le contrat que vous donnez à la Davy, c'est nous qui devrions l'avoir en vertu de la décision que vous avez prise en 2011, quand vous nous avez donné à nous, Irving, et à nous, C-SPAN, le titre de partenaire de la construction. Ben là, ils pourront pas venir contester parce qu'ils sont pleins, les chantiers de ces deux provinces-là sont pleins à ras-bord jusqu'en 2030 en vertu de ce qui a été annoncé hier. Donc, ce qu'on me dit, c'est que c'est une façon aussi, cette annonce-là d'hier, c'est une façon aussi de neutraliser d'éventuelles poursuites et de faire en sorte que quand la décision va être prise d'ajouter des vies puis de leur donner des contrats, que ça se fasse sans contestation devant les tribunaux.
C'est une très bonne stratégie, effectivement.
Intéressant.
Tu as fini par savoir ce qui se cache derrière la rencontre entre le ministre des Finances du Québec et celui de l'Alberta aujourd'hui à Edmonton. Et ça se pourrait-tu que ça concerne le projet gazoduc du Saguenay?
Écoutez bien ça, parce que c'est vraiment intéressant. On est dans de la stratégie politique assez fine et, ouais, et de haut niveau. Moi, là, j'ai appris qu'il s'en allait dans l'Ouest, notre ministre des Finances, lundi. Puis, c'est sorti, là, à tous les jours, là, la CAQ, ils émettent un bulletin, là, une espèce de bulletin, une sorte de mémo. Et là, ils disent, les ministres, le tel ou tel ministre s'en va à tel ou tel endroit, etc. Et là, je vois Éric Girard, ministre des Finances, tourner dans l'Ouest canadien. Là, je fais comme, tourner dans l'Ouest canadien. Ah, ouais, tu sais. Puis là, je soupçonne quelque chose par rapport à l'Alberta, mais ils veulent pas me le confirmer. Finalement, ils me disent, ouais, il s'en va vendre des obligations du Québec, il va se promener dans les provinces, il va rencontrer ses homologues provinciaux. Mais je demeurais convaincu que c'est un prétexte pour un rapprochement avec l'Alberta. Et là, je te le confirme. C'est ça. À matin, il rencontre à 9h30 le ministre des Finances de l'Alberta. Mais j'ai appris qu'il va rencontrer aussi le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney. OK, Éric Girard, notre ministre des Finances, oui, est en mission auprès du gouvernement de l'Alberta. Et là, je vais revenir à ton gazoduc. Je fais un petit détour, mais je m'en viens.
OK.
Alors, l'idée, puis je l'ai confirmé, là, l'idée, donc, c'est de désamorcer le conflit qui pourrait s'envenimer avec l'Alberta autour de la péréquation et autour du pipeline. Donc, la visite de Girard, ça vise effectivement à amorcer un rapprochement avec l'Alberta. Sur la péréquation, le message de Girard, ça va être de dire, écoutez bien là, on n'est pas fiers d'en recevoir, et puis c'est vrai que, tu sais, on espère qu'un jour, on va pouvoir s'en passer, mais arrêtez de dire, les Albertains, arrêtez de penser que vous nous faites vivre. Vous nous faites pas vivre, on a fait le ménage dans nos finances publiques, on a fait des sacrifices pour arriver au déficit zéro, donc, ça va être le message sur la péréquation. Un peu d'éducation sur comment on est arrivé là. Là.
Okay.
Mais sur le pipeline, le cœur de l'affaire, c'est le pipeline. Et là, le message d'Éric Girard au gouvernement albertain, ça va être de dire, regardez là, il y a un projet de gazoduc sur la table. Énergie Saguenay.
Mm-hmm.
On est favorable au projet. On va travailler les évaluations environnementales. On n'a pas le choix. Il faut passer par ça. Mais on est favorable au projet.
OK. Donc on veut détourner l'attention du fameux de l'autre pipeline qui servait à transporter du pétrole pour lequel l'Alberta était fâché. Là, parce
bingo,
qu'on
ne
veut pas que ça passe chez nous.
Bingo, Dominique. Okay. Donc, le deal, là, dans le fond, c'est de dire, regardez, là, il n'y en a pas de toute façon de projet de pipeline sur la table. De pipeline pour du pétrole, là, il n'y en a pas. Il y a un projet de gazoduc. Travaillons là-dessus. Nous autres, on y est favorables, nous autres, le gouvernement du Québec. On fera à travers ça un bon investissement parce qu'il y aura des retombées économiques, la CAQ y croit, les 14 milliards et tout le reste. Mais ça va vous aider, vous autres aussi, à l'Alberta, à sortir votre gaz, parce que le gaz, évidemment, de l'Ouest, va être éventuellement embarqué sur des bateaux pour l'Europe et l'Asie. Donc, on fait notre part pour vous désenclaver, on fait notre part pour vous enrichir, mais levez le pied sur votre idée de faire un référendum sur la péréquation, là. Tu comprends? Le deal, c'est ça. On vous aide avec le gazoduc, mais arrêtez de nous menacer d'un référendum sur la péréquation qui pourrait obliger une négociation constitutionnelle qui envenimerait nos relations. Donc, travaillons sur le positif, reconstruisons l'axe Québec-Alberta, essayons d'oublier un petit peu le commentaire de Legault à l'effet que votre pétrole, c'est de l'énergie sale, et travaillons sur le moyen-long terme. L'autre affaire, Dominique, qui est bien importante,
oui,
et qu'on me dit à Québec, c'est qu'il y a un calcul politique un peu crapaud aussi derrière ça. C'est-à-dire que Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta, donc, est très influent au sein de la droite conservatrice. Il est très influent auprès de Scheer. Il est très influent, donc, auprès du premier ministre ontarien Ford. Même chose pour celui du Nouveau-Brunswick. Même chose pour la Saskatchewan. Ouais. Même chose pour le Manitoba.
Ben, c'est un ancien ministre conservateur, hein?
Et voilà. Et d'ailleurs, Éric Girard est un ancien candidat conservateur.
Oui, c'est vrai.
Oublie pas ça. Oublie pas ça. Le ministre des Finances du Québec, la CAQ, c'est un ancien candidat conservateur. Et donc, le calcul un peu crapaud dont je te parle, c'est qu'ils se disent d'investir dans la relation avec Kenney, ça pourrait être payant si jamais Scheer prend le pouvoir en octobre prochain. Parce que Scheer est très influent auprès de c'est-à-dire Kenney est très influent auprès de Scheer. Et donc, de travailler, de gérer la question de l'Alberta, d'essayer de neutraliser ou de désamorcer les conflits puis les tensions, ça pourrait être très payant pour le Québec si jamais les conservateurs prennent le pouvoir aux prochaines, parce que Kenney va jouer un rôle important, va être une voix influente sur le gouvernement conservateur si jamais c'est eux autres qui passent aux prochaines élections. Intéressant, tu sais.
Ben, super intéressant. Dis-moi, Jason Kenney, c'était pas ce ministre, d'ailleurs, dont on avait douté de la perte de la joséphitude à la joute?
Oui, c'est Jean Lapierre qui avait sorti ça. Jean Lapierre avait dit qu'il n'avait pas encore perdu sa joséphitude.
Oui, c'est...
Parce qu'il attendait le mariage.
La droite conservatrice, hein, c'est...
oui, c'est ça.
C'est ça.
Exactement.
En terminant, bonne nouvelle, le règlement Athéna sur les boissons sucrées alcoolisées, ça va entrer en vigueur aujourd'hui.
Voilà. Ils avaient annoncé qu'ils avaient l'intention de le faire, mais l'interdiction va entrer en vigueur aujourd'hui, dès que la ministre Ginette Petitpas-Taylor, la ministre fédérale de la Santé, va émettre un communiqué plus tard aujourd'hui. Donc, j'ai su ça hier soir, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, on va l'appeler le règlement Athéna, à la mémoire de la petite Athéna Gervais. Tu te rappelles cette étudiante qui est décédée noyée derrière son école après avoir consommé du fuck-top? Bon, ben le règlement qui va entrer en vigueur aujourd'hui prévoit là, que des boissons comme le fuck-top qui contiennent 11,9% d'alcool pour une canette standard là, de 568 millilitres, ben ça ramène le taux d'alcool de 11,9 à 4,5%, Dominique.
C'est...
Donc une canette comme le Fucktop qui contient à peu près 4 portions d'alcool, là, ça va être limité dorénavant à une portion et demie maximum.
Et on espère que les jeunes pognent mal à la tête avant de finir leur huitième canette. Tu sais, c'est un peu ça le but.
On s'entend que c'est une mesure qui est nécessaire, qu'on aurait dû voter avant.
Ah oui.
Il n'aurait pas fallu passer par un décès comme celui d'Athéna. Mais là, qu'est-ce que tu veux? On essaye d'apprendre de nos erreurs. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour si on veut protéger nos jeunes. Là, je pense que c'est une mesure qui était nécessaire. Et c'est très sérieux. Là. Quand je te dis que ça entre en vigueur aujourd'hui, là, les canettes qui ne respectent pas le taux d'alcool dont je viens de te parler, là, vont devoir être retirés des tablettes. Là.
Oh,
et on
okay.
sait qu'il en reste un peu partout au Québec puis même au Canada, là, parce que c'est une mesure pour l'ensemble du Canada.
Ça, c'est les propriétaires de dépanneurs qui sont pognés avec ça aujourd'hui ou c'est les fournisseurs qui devront faire le ménage de l'inventaire?
Très bonne question.
Ouais.
Mais je peux te dire en affaire, les propriétaires de dépanneurs doivent retirer, dès que le communiqué va sortir, là, on me dit autour de 10 heures, ils doivent retirer immédiatement les canettes. Doivent être retirés du marché.
Ouais, une belle journée aujourd'hui pour les propriétaires de dépanneurs. Regardez vos stocks. Merci beaucoup, Bernard Dréville.
Je te souhaite une belle journée, Dominique. Salut.
Bonne journée. Bernard Dréville, chroniqueur politique. Dans un instant, jase de nouvelles et de sport.
Rumeur, analyse, opinion. Voici Bernard Dréville.
95.7, Saguenay. Le show du matin. Le show du matin. On revient dans quelques minutes. 95.7 Kick Saguenay.